Françoise Thom, vous êtes historienne, agrégée de russe. Vous avez enseigné à la Sorbonne l'histoire de l'URSS et des relations internationales. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont « Comprendre le poutinisme ». Vous avez également écrit de nombreuses contributions que l'on retrouve sur le site d'Es Russie. Et vous souhaitez intervenir sur l'Occident face à l'intervention russe.
Oui, je vais aborder les... ce qui me frappe en tant qu'historienne dans les deux années qui viennent de se passer. Entre autres, hein, bien entendu, je ne parlerai pas des horreurs, de tout ce que nous voyons quotidiennement, mais de ce qu'il faut, en tant qu'occidentaux, ce que nous devons, de la leçon que nous devons tirer, c'est d'abord prendre en compte l'extraordinaire obstination du Kremlin à atteindre ses objectifs. La persévérance russe dans la réalisation des buts que se fixe le pouvoir ne date pas d'hier. Il suffit d'étudier, par exemple, comment Catherine II a phagocyté l'État polonais au XVIIIe siècle. Un diplomate de Louis XV note déjà en 1772, à propos de la diplomatie des tsars, cette cour dont la lente politique marche à pas sûrs vers son but. Donc déjà à cette époque, on remarquait le côté méthodique de cette expansion russe hein, qui était faite d'improvisation mais aussi de planification tout à fait machiavélique et qui a beaucoup frappé les observateurs français. Je rappelle que la Russie a augmenté d'une superficie équivalente à celle de la Hollande par an à partir du XVe siècle. Donc elle grandit chaque année d'une superficie qui équivaut à celle de la Hollande. Elle a augmenté pendant les 300 ans d'existence de la dynastie des Romanov. L'Empire russe s'agrandit à la vitesse de 140 km² par jour. Donc vous voyez ce dynamisme de la Russie, cet expansionnisme qui s'est étendu pendant des siècles. Et il faut tenir compte de ce fait, je crois, pour comprendre l'acharnement russe aujourd'hui en Ukraine. Cette persévérance s'est toujours accompagnée d'un total mépris du coût humain. La prise de Berlin en avril 1945 a coûté à l'URSS 80 000 morts et 270 000 blessés, simplement parce que Staline voulait être à Berlin avant les Américains, avant les Anglo-Saxons. Il n'a pas hésité à sacrifier toutes ses vies alors que la guerre était pratiquement gagnée. Aujourd'hui, des interceptions ukrainiennes révèlent qu'avant l'attaque près de Bakhmout, le commandement russe exhortait ses troupes en ces termes « Votre tâche est d'avancer à n'importe quel prix, que vous périssiez ou non n'a pas d'importance, d'autres vous remplaceront, l'essentiel est d'avancer ». Donc, vous voyez, un officier qui s'adresse ainsi à ses troupes. Donc, je crois qu'on doit d'abord prendre conscience en Occident de cette formidable volonté de puissance qui se révèle dans cet acharnement. On se demande toujours pourquoi Poutine n'a pas encore été renversé, alors que sa posture belliqueuse coûte de plus en plus cher à la Russie en termes économiques et politiques. Et la réponse est simple, c'est que le projet d'hégémonie du Kremlin sur l'Europe est impossible à réaliser tant que l'Ukraine n'est pas remise au service de l'Empire russe. Un propagandiste russe l'a dit, hein, je le cite, « Les Ukrainiens sont nécessaires à la Russie comme ressource mobilisationnelle dans la guerre future de la Russie contre l'OTAN ». Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre chez nous. Donc si le Kremlin parvenait à ses fins en Ukraine, on aurait en face de nous, en Europe, cette formidable machine de puissance que nous avons vu à l'œuvre en Ukraine, cette machine de puissance qui n'existe au fond que pour ce projet, pour la réalisation du projet de puissance, elle se retournerait contre l'Europe. L'objectif de Moscou, je parlais tout à l'heure l'obstination russe et de la persévérance du Kremlin, l'objectif en fait de Moscou est la réalisation d'un projet qui remonte à 1945, l'instauration de l'hégémonie russe sur le continent européen. Au printemps 1945, après la prise de Berlin, Staline, je cite, avait dans l'idée d'avancer jusqu'à la Manche, ce sont ses propres propos, à Maurice Thorez en 1947. Donc il envisageait, encore une fois, de dominer par l'armée rouge tout le continent européen. Et c'est uniquement, évidemment, l'existence de l'arme nucléaire aux mains des Américains qui a fait capoter dans l'immédiat ce projet. Mais ce dessin, il réapparaît régulièrement. En février 1954, donc après la mort de Staline, Molotov propose la création d'un système de sécurité européen excluant les États-Unis. Donc toujours la même idée. Ce dessin, il est aussi à l'origine de la détente, l'idée de la détente dans la tête des dirigeants soviétiques, c'était justement d'étendre l'influence soviétique, notamment par les moyens économiques. C'était déjà prévu de s'attirer les élites occidentales, d'Europe occidentale, par l'appât économique, par des contrats juteux en URSS, de façon à développer l'esprit du neutralisme en Europe et éloigner et créer des divergences au sein de l'OTAN. Ces directives, cette orientation reste pendant toute la politique étrangère soviétique jusqu'à Gorbatchev inclus. En avril 1985, Gorbatchev déclare à Dobrynin, l'ambassadeur soviétique à Washington, que la tâche prioritaire de l'URSS était d'éliminer les États-Unis d'Europe. Pour cela, dit Gorbatchev à Dobrynin, il faut cesser de faire peur aux Européens et retirer par étapes les troupes soviétiques et américaines d'Europe. Et Gorbatchev explique à Dobrynin, les troupes soviétiques ne se trouveront qu'à quelques centaines de kilomètres des frontières et leur présence invisible continuera à se faire sentir dans les États européens. Donc vous voyez, ça c'est Gorbatchev. Après l'effondrement du bloc communiste et de l'URSS, on a une petite période de désarroi qui va prendre fin, du point de vue de la politique étrangère, à partir de 1996, quand Primakov devient ministre des Affaires étrangères en place Kozyrev. Et là, la politique étrangère russe renoue avec ces traditions soviétiques, anti-américanisme, séduction des Européens, etc., etc. Cette entreprise de restauration de la puissance russe, et bien entendu, oui, la restauration de la puissance russe dans l'ancien empire soviétique, perçue comme prélude à l'accomplissement de ce dessin dont j'ai parlé, le dessin plus vaste, c'est-à-dire l'hégémonie russe en Europe. Cela apparaît de façon flagrante dans un échange entre Yeltsin et le président Clinton en novembre 1999, qui est devenu public puisque Clinton a ouvert une partie de ses archives. Yeltsin dit à Clinton, « Je vous demande une chose, vous n'avez qu'à donner l'Europe à la Russie. Les États-Unis ne sont pas en Europe. L'Europe devrait être l'affaire des Européens. La Russie est à moitié européenne et à moitié asiatique. » Clinton répond, « Alors, vous voulez aussi l'Asie ?» Yeltsin, « Bien sûr, nous allons devoir nous mettre d'accord sur tout cela. » Clinton, « je ne crois pas que les Européens apprécieront beaucoup. Yeltsin, pas tous. Vous pouvez, et puis il s'adresse à Clinton, vous pouvez prendre d'autres États et assurer leur sécurité. Je vais prendre l'Europe et assurer la sécurité des Européens. Enfin, pas moi, dit Yeltsin, mais la Russie. Bill, je suis sérieux. Laissez l'Europe à l'Europe. L'Europe ne s'est jamais sentie aussi proche de la Russie qu'elle l'est aujourd'hui. La Russie est assez puissante pour protéger toute l'Europe. Elle est assez puissante et intelligente pour savoir que faire de l'Europe. Voilà un dialogue tout à fait hallucinant et qui est extrêmement clair. Et on remarque que finalement, Poutine a fait exactement la même proposition à Macron en 2018, hein, quand il a dit vous n'avez pas besoin des Américains pour protéger l'Europe, nous pouvons très bien assumer cette tâche. C'était exactement cette idée-là. C'est ce projet-là que Poutine va se charger de réaliser. Dès 2000, il procède à une grande réforme de l'administration présidentielle qu'il transforme en cabinet de guerre. C'est très important, je pense, cette réforme de l'administration présidentielle. La fonction de l'administration présidentielle, désormais, est de prédire, je cite, un document qui décrivait cette réforme, prédire et créer la situation politique nécessaire en Russie, mais aussi de diriger réellement les processus politiques et sociaux dans la Fédération de Russie, ainsi que dans les pays de l'étranger proches. Donc vous voyez, dès l'arrivée au pouvoir de Poutine, ce projet est présent, un projet d'ingénierie politique qui ne devait pas s'arrêter aux frontières de la Russie, qui devait évidemment être appliqué aussi dans les pays de l'ex-Union soviétique et du bloc, peut-être du bloc communiste, et plus loin en Europe. Alors, je ne détaille pas les méthodes qui ont été employées, elles sont bien connues aujourd'hui. À partir de 2004, le régime poutinien se prépare activement à un affrontement avec l'Occident. Le régime poutinien a désormais des fonds, hein, il a de l'argent, et il s'est assuré le contrôle des secteurs vitaux de l'économie. Donc, il a signé des contrats gaziers avec l'Europe et il estime qu'il est en train de gagner la partie dans la réalisation, encore une fois, de cet objectif. Remplir les caisses de l'État russe n'est qu'une des tâches assignées à Gazprom, écrit Eria Novosti. La seconde tâche, non moins importante, c'est d'inculquer aux partenaires occidentaux cette évidence. Leur sécurité énergétique passe par un partenariat étroit avec la Russie. Donc on a déjà l'arme énergétique. Et Poutine pense qu'il va pouvoir réaliser très rapidement cette union eurasienne de Brest à Vladivostok, cimentée par des gazoducs reliant la Russie à l'Europe, dans laquelle les États européens, qui sont trop petits pour être souverains, dans la vision de Poutine, les Soviétiques ne considéraient jamais les Européens comme des pays souverains. Ils pensaient qu'ils dépendaient de leur chef américain, de leur protecteur américain, et par conséquent qu'ils passeraient facilement sous la coupe d'un protecteur russe, n'étant pas des sujets politiques. L'annexion de la Crimée, c'est un premier pas vers la création de cet empire autarcique dont rêve le président russe. Et après cette opération qui est un succès éclatant, Poutine est convaincu qu'il va pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire poursuivre sa politique de reconquête de l'espace ex-soviétique tout en bénéficiant des avantages de la civilisation occidentale et évidemment des technologies et des fonds de l'Occident. Au printemps 2014, Alexandre Douguine, qui est l'un des idéologues du régime, le dit carrément dans une interview télévisée, je cite, « Annexer l'Europe, c'est un grand dessein digne de la Russie. Nous prendrons leur technologie d'un seul coup, plus besoin de gaz et de pétrole pour les obtenir au compte-gouttes. Voilà la modernisation et l'européanisation de la Russie. Le soft power suffira. Trouver une cinquième colonne, propulser au pouvoir les gens que nous contrôlons, acheter avec l'argent de Gazprom des spécialistes de la réclame. » Voilà le programme, et c'est exactement évidemment ce programme-là le Kremlin va essayer de réaliser. Avec un grand optimisme. En 2018, la Russie, qui a lancé un immense programme d'armement à partir de 2008, la Russie est persuadée que la corrélation des forces est en train de se renverser en sa faveur. Un commentateur très officiel, Piotr Akopov, formule le projet du nouveau mandat de Vladimir Poutine. Nous avons fait une percée dans le développement et l'introduction de nouvelles armes. Nous sommes devenus les leaders incontestés en termes de puissance militaire. Cela signifie un tournant important dans l'ensemble de l'alignement des forces sur la scène mondiale. Par conséquent, on peut dire que la Russie peut désormais dicter ses conditions. Et nous voulons avant tout la transition vers un nouvel ordre mondial post-américain. Donc voilà. Alors évidemment, la première phase de la réalisation de ce projet, c'était l'élimination des forces américaines en Europe. En 2021, Poutine pense que la situation est mûre. Hein, les Américains ont quitté l'Afghanistan de façon piteuse, et Poutine est certain qu'il tient l'Allemagne par le gaz et le pétrole, et que l'Allemagne tiendrait l'Europe pour le compte de la Russie, et pourrait même contribuer à influencer les États-Unis et finlandiser la politique américaine. C'est comme ça que les dirigeants russes voyaient les choses en 2021. Poutine pensait qu'il pouvait contrôler une bonne partie des élites occidentales. Il s'est par exemple vanté auprès d'un ministre des Affaires étrangères européen que la Russie pouvait acheter n'importe qui aux États-Unis et en Europe. Donc c'est cet état d'esprit qui explique l'ultimatum du 17 décembre 2021 qui exigeait un recul de l'OTAN sur ses positions de 1997. Eria Novosti précisait, il ne s'agit pas de proposition de discussion, mais bien d'un ultimatum, une demande de reddition inconditionnelle. L'Occident n'a pas d'autre choix que de perdre la face, à moins de tenir fièrement bon et d'entrer en guerre avec la Russie. Non, cette fois-ci, l'Occident va payer de sa personne. Alors, à la grande surprise des dirigeants du Kremlin, les Occidentaux n'ont pas cédé à ce chantage l'agression russe contre l'Ukraine, au fond, c'était la réponse russe à ce rejet de l'ultimatum. Le but, c'était de montrer aux Européens que la protection américaine, l'alliance américaine ne leur servirait à rien, que les Américains allaient lâcher l'Ukraine. Il y avait bien sûr le but de contrôler l'Ukraine, mais il y avait aussi le but de démoraliser les Européens en montrant que la garantie américaine était vide. Et voilà, donc les Russes ont... Enfin, le Kremlin était persuadé tout récemment encore qu'il était en train de gagner la partie, que les Américains allaient laisser tomber l'Ukraine et donc démoraliser les Européens en laissant tomber l'Ukraine, en voyant l'Ukraine abandonnée. La décision récente des États-Unis venir au secours finalement de l'Ukraine a beaucoup contrarié les hommes du Kremlin. C'est un échec parce que, encore une fois, le Kremlin comptait arracher la victoire sur l'Ukraine cet été. Et donc, cette victoire est pour le moins déférée. Alors, nous en sommes là. Je crois que l'important, évidemment, pour l'Europe, c'est de prendre en compte, encore une fois, ce que je viens de montrer, cette extraordinaire volonté de puissance qui se déploie de Moscou, quel que soit, au fond, le régime, hein, quel que soit le dirigeant, on a cette constante, cette volonté d'expansion qui tient à la nature, je dirais, autocratique du régime russe. Au fond, la justification de l'autocratie russe, c'est l'expansion. Ce sont les immenses distances. C'est ce que disait Catherine II. Nous avons besoin d'un régime despotique pour tenir le pays. Et ça, c'est, je crois, la motivation profonde. Et donc, si, comme on l'espère, la Russie reçoit une raclée en Ukraine, et qui est une raclée salutaire, il faudra bien faire passer le message de façon à ce que la Russie arrive enfin à se débarrasser de cette matrice autocratique qui est la cause, qui est une des causes. Hein. Je prends en compte aussi l'état d'esprit de la Russie profonde, c'est une cause tout aussi importante, mais je crois que cet aspect politique est fondamental, et quand on veut penser la Russie de l'après-Poutine, il faut absolument adopter comme priorité l'éradication de cette matrice autocratique qui amène absolument nécessairement cette volonté d'expansion et donc de destruction des voisins de la Russie. Voilà, je crois que... Voilà, je crois que c'est un objectif qu'il faudra poursuivre avec la même persévérance que mettent les Russes à poursuivre les leurs.
Merci beaucoup.